Étape 3, et le mot-clé ce soir, c'est introspection. Qu'est-ce que c'est que l'introspection? C'est regarder à l'intérieur de soi, regarder à sa vie. C'est l'étape clé pour être transformé par la puissance de Dieu. Dans Éphésiens 3, 20, il est écrit ceci: Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Il y a une puissance qui agit en nous, qui ne dépend pas que de nos forces à nous. Et cette puissance, elle est infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ et dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Nous sommes dans ce moment où nous recevons par révélation ce que Dieu est vraiment pour chacun d'entre nous. On l'a vu la semaine dernière, l'engagement d'avoir cette relation avec Dieu, l'engagement de déposer notre vie avec le Seigneur. C'est une révélation, c'est ce Dieu d'amour qui se révèle à nos cœurs. Jusqu'à maintenant, pour ceux qui n'avaient pas encore donné leur cœur à Dieu, eh ben, ils traversaient cette vie, ce voyage sur la terre, ils le traversaient avec un cœur d'orphelin. Même s'ils ont des parents, même s'ils ont du monde autour d'eux. Le cœur orphelin, c'est un état d'esprit où on compte sur soi-même, où on se débrouille par soi-même et qu'en fait, on a appris à ne pas avoir besoin des autres. Et là, Dieu se révèle à nous. Et là, nous comprenons que nous avons fait faillite dans notre vie. Peut-être qu'on a réussi quelques trucs, mais au fond de notre cœur, nous avons fait faillite. Et donc, nous avons reconnu le besoin de Dieu dans notre cœur. Cet amour que Dieu possède, qui ne peut pas venir des hommes, cet amour agapé, et cet amour qui coule en nous et qui répare tout ce qui doit être réparé, qui vient guérir tout ce qui doit être guéri. L'amour de Dieu qui coule en nous, qui est répandu en nous par le Saint-Esprit. Un Dieu d'amour qui peut et qui veut le meilleur pour nous. C'est notre papa. Il nous a créés. Chacun de nous, nous avons été créés par Dieu. Dans le psaume 119, il est écrit « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. » On ne reçoit pas la parole de Dieu avec notre intelligence. On reçoit la parole de Dieu dans notre cœur. La parole de Dieu, elle est vivante et elle agit en nous quand nous la saisissons. Elle se reçoit par l'Esprit. La révélation de sa parole nous amène à nous regarder chaque jour comme dans un miroir et à nous sonder. C'est important parce que tant qu'on sera sur cette terre, il y aura de la transformation dans nos vies. Et il ne faut pas croire qu'un jour, on a été touché par la grâce et on n'a plus rien à faire. On a tout reçu de Dieu et maintenant, on n'a plus rien à changer en nous. Ça serait une grave erreur de penser ça. La transformation, c'est quelque chose qui se vit au quotidien. C'est une transformation en continu afin que nous ressemblions de plus en plus à Jésus, afin que nous soyons de plus en plus épanouis, que nous goûtions de plus en plus à sa paix, à son amour, et surtout, comme on a prié tout à l'heure, à son repos, à sa paix. Guérir de nos dysfonctionnements, afin que notre passé ne détermine pas notre présent et notre futur. On a tous une vie différente. On a tous vécu des choses différentes. Mais dans ce qu'on a vécu, il y a des choses qui peuvent être difficiles à guérir. Et le but de la restauration, c'est que ces dysfonctionnements que l'on met à jour, ces blessures que l'on met à jour, ces traumatismes que l'on met à jour, ils sont là pour que le Seigneur puisse les guérir afin que ce passé ne nous empoisonne plus, afin que ce passé ne viennent pas déterminer notre présent et notre futur. Il est nécessaire qu'il y ait un avant et un après. Et un après avec Jésus n'a rien à voir avec avant sans Jésus. Le but du jeu, c'est que l'on puisse aimer les autres comme ils sont. L'amour de Dieu devient notre fil conducteur. Et Paul écrira ceci aux Corinthiens. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Mais nous, nous voyons au moyen d'un miroir. D'une manière obscure, certes pour l'instant, parce qu'on n'a pas encore toute la révélation. Mais dans tout ça, il y a trois choses qui demeurent. La foi, l'espoir, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Il faut le reconnaître. C'est pour ça que nous sommes nés. Et c'est la raison de vivre. C'est la raison de vivre. Parce que toute notre vie tient autour des relations. Et qu'est-ce qui lie les relations ? L'amour. Tout est une question d'amour, en réalité. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Tout va passer. Mais la plus grande des choses, c'est l'amour. Amen. Vivre dans l'amour. J'aime cette expression. Une main de fer dans un gant de velours. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la main de fer, c'est... On a nos convictions qui viennent de la parole de Dieu. Et ça ne change pas. Et ça ne changera jamais. Par contre, le gant de velours, c'est la manière dont nous nous exprimons. C'est la patience. C'est la douceur. C'est la manière d'accepter que l'autre n'est pas d'accord avec nous, qu'il est différent de nous, mais ça ne change pas l'amour que nous avons pour lui. Une main de fer. J'ai mes convictions qui viennent de la parole de Dieu. Et je les exprime dans l'amour. Je les exprime avec la douceur. Vous savez que c'était une des caractéristiques de Jésus. On disait que Jésus était doux et humble de cœur. Bizarre, hein ? Première caractéristique de Jésus. Jésus était doux et humble de cœur. Est-ce que tu es doux ? Est-ce que tu es doux quand tu t'exprimes ? Est-ce que tu es doux avec ton mari ? Est-ce que tu es doux avec ta femme ? Est-ce que tu es doux ? Est-ce que tu es dans la douceur ? Et vous voyez, il ne faut pas tomber dans le piège que la douceur, ça serait une faiblesse. Pas du tout. Regardez bien. Sous la douceur, sous le gant de velours, il y a une main de fer. C'est très important de comprendre que la douceur, c'est une manière d'aimer. Le velours, tu sais, c'est la douceur. Le velours, c'est doux. C'est pas brut, le velours. C'est doux, tu vois. Donc, arriver à s'exprimer. Tu sais, quand tu vois quelqu'un qui n'est pas guéri, et quand il parle, ben, en général, il y a très peu de douceur dans sa manière de s'exprimer. Tu vois plutôt l'amertume. Tu vois plutôt la colère. Tu vois le ressentiment. Mais rarement, tu verras la douceur. La douceur, quand tu peux t'exprimer avec douceur avec tout le monde, mais c'est que quelque part, tes émotions sont en paix. C'est quelque part que tu as acquis une paix qui vient de Dieu, qui te permet de ne pas te déstabiliser pour un oui ou pour un non, et de ne pas prendre l'offense pour un oui ou pour un non, mais au contraire, de continuer à rester dans la douceur alors que l'autre en face n'est pas d'accord avec toi. Il a une opinion différente, il pense différemment. Il a le droit. C'est une bonne nouvelle, ça. Il a le droit. Je ne sais pas si vous le saviez, mais il a le droit de ne pas être d'accord avec vous. Vous imaginez 7 milliards ou presque 8 milliards d'habitants sur la Terre. Et puis, s'il y en a qui ne sont pas trop d'accord avec nous, ça ne devrait pas nous surprendre. Ce n'est plus la peur de nous blesser les uns les autres. Ce n'est plus la peur de perdre l'affection de l'autre qui conduit notre vie. Vous comprenez ? Quand on arrive à cette relation avec Jésus et cette transformation, cette guérison, alors on n'a plus peur d'être blessé par les autres. Vous voyez ? Tant qu'on n'a pas mis tout ça à jour et qu'on n'est pas dans cette paix de Dieu, on est comme dans une tour d'ivoire. On est comme dans une forteresse. Et où il y a, vous connaissez, dans les forteresses, il y a le Judas. Hein? Et donc, on est comme là, et puis on regarde dans le Judas, puis on dit, oh lui, non, tac, on ferme. Et puis, lui, ouais, peut-être. Hein? Et en fait, on fait un tri dans les gens avec qui on va discuter, avec qui on va se rapprocher, tout ça. Et petit à petit, on réduit le nombre de personnes qui méritent, entre parenthèses, notre confiance, suivant notre conception. Hein. Et puis, quand on se place, quand on se blesse avec ces gens-là, ben, on réduit encore un petit peu plus. Et à la fin, ben, vous restez tout seul. Mais oui, parce qu'on se blessera de toute façon. Mais si on reste dans cette peur, et que quand ça... Ah, je m'en doutais que ça allait mal finir encore, cette affaire-là. Eh bien, petit à petit, on va se fermer aux autres. Donc, il y a une mentalité à changer pour ne pas avoir peur des autres, pas avoir peur d'être blessé, mais s'ouvrir aux autres. C'est la différence, s'ouvrir aux autres. Pas avoir peur non plus dans cette main de fer, c'est aussi... d'affirmer ce qu'on pense dans le gant de velours. D'affirmer. Pourquoi ? Parce qu'on dit les choses telles qu'elles sont, avec amour. Et on n'a pas peur de perdre l'affection de l'autre. Sinon, ce n'est pas le vrai amour. C'est un amour qui est conditionné avec une fausse paix, à marcher sur des œufs, à faire attention que l'autre ne s'énerve pas. À un moment, c'est très fatigant. On n'est pas dans le repos de Dieu, là. Non. Non, non. On grandit et on comprend que c'est pas grave si on dit les choses et l'autre n'est pas d'accord. Et simplement lui dire, mais mon frère ou ma sœur, mon frère, mais moi, je t'aime. On n'est pas d'accord. Mais c'est pas grave. Je t'aime. Mon amour pour toi n'est pas conditionné au fait que tu dois être absolument d'accord avec moi. C'est quoi cette affaire ? Ça ne marche pas, ça. Et on reste en paix. C'est des relations authentiques. C'est des relations authentiques, remplies d'honnêteté. Mais c'est ça, l'amour de Dieu. Dans Éphésiens 5, versets 1 à 2, il dit « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour. » Vivez dans l'amour, le vrai l'authentique, le sincère. Et n'ayez pas peur. N'ayez pas des relations qui sont basées sur la peur. En suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Cette étape, je l'ai dit tout à l'heure, elle nous permet de faire un premier bilan. Elle nous permet de regarder à notre vie. Et vous allez voir quand vous allez recevoir les questions, le questionnaire. Bon, d'habitude, il y a une page. Bon, là, il y a deux pages, recto verso. Oh, ça fait mal. Donc, c'est pour ça qu'il y a pour deux semaines. Mais attention, c'est la base. C'est-à-dire que tout ce que vous allez remplir dans votre cahier, c'est votre vie. Tout ce qu'il y a à revoir, à guérir, à nettoyer, c'est votre vie. Mais il faut le faire une fois pour toutes. On le fait une fois, c'est extrêmement épuisant émotionnellement. Mais après, on va savoir ce qu'il faut guérir en nous. On va savoir demander à Dieu qu'est-ce qu'il faut guérir en nous. Vous savez, avec Dieu, quand on veut être guéri, il ne faut pas dire « Seigneur, guéris-moi ». Non. Quand l'aveugle vient voir Jésus, ben, il est aveugle. Hein, donc on pourrait dire, mais Jésus, tu vas le guérir parce qu'il ne voit plus. Et Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse ? Nous, on aura envie de dire, mais Jésus, tu vois bien, il est aveugle, il faut le guérir. Non, Jésus demande, qu'est-ce que tu veux que je te fasse ? Eh bien nous, quand on sera dans l'étape 7, 8, ben c'est pareil. On va regarder dans exactement... Qu'est-ce qu'on a comme dysfonctionnement ? Qu'est-ce qu'on a comme problème ? Et on va dire, Seigneur, c'est ça, Seigneur, ça qu'il faut guérir. Ça, je veux que ce soit. Parce qu'il faut l'exprimer. Il faut le dire. Évidemment, Jésus le sait. Évidemment, on ne va pas lui dire, tiens, tu ne savais pas ça, non, Seigneur ? Non. Jésus est omnipotent, omniscient. Il connaît tout. Il sait quand est-ce qu'on se lève, il sait quand est-ce qu'on se couche. Il connaît nos pensées avant qu'on ait parlé. Donc, il connaît tout. Mais ce qu'il veut, c'est que ce soit nous qui le reconnaissions. Nous qui l'exprimons et on le reconnaît en le verbalisant. Amen. Donc, le fil conducteur, nous avons procédé sans peur à un inventaire moral approfondie de nous-mêmes. Il faut du courage pour regarder à notre vie, à ce que les autres nous ont fait subir et à ce que nous avons fait subir aux autres. Parce que, évidemment, dans l'examen qu'on va faire, ce n'est pas que dans un sens. Parce qu'entre vous, entre nous, on n'est pas des petits saints. J'espère que vous êtes conscients de ça. En tout cas, moi, je suis très conscient du mal que j'ai fait, et peut-être que j'en oublie un peu. Mais ce n'est pas grave. Il nous faut une analyse honnête de notre vie. Parce qu'on va sans doute avoir besoin de pardonner, mais on aura sans doute aussi besoin de demander pardon. Ça va dans les deux sens. Si on veut guérir, il faut qu'on soit clean dans le pardon. Aussi bien dans ce que les autres nous ont fait que dans ce que nous avons fait aux autres. S'il n'y a pas de pardon, si ça reste du non-pardon, alors ça sera compliqué de guérir. Le pardon est une base solide dans la vie de l'esprit, dans le christianisme, c'est une base. Hein. Et d'ailleurs, c'est sans doute la dernière phrase que Jésus a exprimée sur cette terre. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et même nous, bien souvent, on a fait mal sans le savoir. Ce n'était pas conscient, mais on a blessé, on a fait mal. Une blessure ne peut guérir que si elle est soigneusement nettoyée. Cette étape constitue une opportunité d'explorer plus en profondeur les côtés sombres de notre personnalité. Il faut être honnête, il faut être vigoureusement honnête et mettre à jour notre personnalité et aussi les côtés sombres de notre personnalité. Si tu penses que tu n'as pas de côté sombre, tu te mens. Tu n'es pas réaliste. On l'a vu, on va le voir encore ce soir. On a vu la fenêtre de Johari. On a vu que tout le monde a des côtés sombres. C'est normal, puisque le péché est venu habiter en nous. Et puis, entre nous, si on ne le croyait pas, eh ben, il n'y aurait pas de repentance. Eh oui, réfléchissez un instant. Il n'y aurait pas besoin de se repentir. On se repent de quoi ? Parce qu'on n'a rien fait de mal. Non, on se repent parce que ben, nous aussi, on a fait des erreurs. Nous aussi, on a blessé les autres. Plus vous en prendrez conscience, et moins vous serez porté à retourner à vos anciennes habitudes ou à retomber dans vos vieux travers. En fait, c'est d'amener à la lumière pour en prendre conscience. Vous vous rappelez qu'on a parlé de la barrière du déni. Le déni où on ne voit pas la réalité. C'est-à-dire que les autres autour de vous voient le problème, mais vous ne le voyez pas le problème. Vous voyez ? Il faut que là-dessus, on soit clair là-dessus. Ce n'est pas le fait de quelques-uns, c'est tout le monde qui a ce problème-là. Le déni, c'est de voir les fautes chez les autres, mais pas chez nous. Et ça nous empêche de guérir. C'est important d'enlever la barrière du déni. Considérez cette étape comme le grand ménage de votre vie. Au fil des mois et des années, nous amassons une quantité de blessures, de dysfonctionnements et de non-pardon. Cette étape nous amène à affronter la partie cachée de notre personne. Les blessures, les colères, les injustices, le sentiment de n'avoir jamais été aimé, de ne pas nous aimer nous-mêmes parfois, mais aussi parfois le côté méchant qui nous habite, les pulsions, les désirs malsains, inavouables, la honte de cette partie cachée de notre personne. On a tellement honte de certains côtés de notre personne qu'on les cache. Mais ça nous empêche de vivre vraiment la vie que Dieu a pour nous. Toutes ces choses cachées en nous se manifestent souvent sous la forme de réactions inexpliquées, un contrôle de notre entourage, parce qu'on n'est pas sécure. On n'a pas assez confiance en nous. Alors, inconsciemment, on contrôle notre entourage. Et quand l'autre dit, mais arrête, tu es en train de me contrôler tout le temps. Et la personne va dire, mais non, je ne te contrôle pas, c'est parce que je t'aime. Et c'est du contrôle. Et la personne ne le voit pas. La perte de maîtrise de soi. En bon français, quand tu pètes un plomb. L'insécurité. Quand tu es insécure, tu n'as pas encore cette assurance que Dieu t'aime. Tu n'as pas encore cette assurance de la valeur que tu as alors que tu n'as pas encore levé le petit doigt. Une valeur qui ne vient pas de toi, une valeur qui vient du sacrifice de Jésus à la croix. Une valeur qui ne dépend pas de tes performances, qui ne dépend pas de ton statut social. Ça, c'est pour l'apparence. Ça, c'est pour dire aux autres, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?
Ah, moi, je suis chef d'entreprise.
Ah ouais, oh, c'est bien. Wow. Et c'est ta sécurité, tu vois. Les autres te voient comme un chef d'entreprise. Alors, waouh ! Mais en fait, ça peut être vide à l'intérieur. Tu peux être chef d'entreprise et complètement insécure. Ça n'a rien à voir. Tu as besoin de cette révélation que tu es important parce que Dieu t'aime. Tu es important parce que Dieu a donné sa vie pour toi. C'est ça la vraie sécurité. Parce que cette sécurité-là, elle ne changera jamais. Ton argent peut s'envoler. Ton statut, il peut disparaître. Un accident de la vie peut t'enlever tout sur quoi tu croyais que tu avais reposé ta vie. Et puis tout d'un coup, tu n'es plus rien. Parce que tout ça est parti en morceaux. Alors tu as l'impression que toute ta vie s'arrête là. Et que ta vie est foutue maintenant. Tu comprends le danger ? La vraie sécurité, la vraie paix, c'est de dire « je suis en sécurité parce que je m'appuie sur Dieu, je m'appuie sur Jésus ». C'est uniquement ça qui est la vraie sécurité. Le reste, ce n'est pas vrai. Il n'y a qu'à regarder toutes les grandes vedettes, il n'y a qu'à regarder tous ceux qui se sont suicidés alors qu'ils avaient le succès, ils avaient l'argent, ils avaient tout. Et on ne comprend pas, on dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Mais il était complètement insécure dans sa vie. Et ça, ce n'est pas marqué sur la figure. Tu peux faire genre. Tu peux faire genre. Mais tu sais, il y a quelqu'un qu'on ne trompe pas. C'est Dieu. Parce qu'il connaît ton cœur. L'insécurité, j'étais là. Alors, allons dans l'énervement, l'irritabilité, la colère, parfois la rage envers certaines personnes. Elle se manifeste aussi sous forme de rejet, de préjugés, de jugements, de critiques, de médisances. C'est tout ça, les choses qui doivent changer en nous. Parce que ça, ce n'est pas marcher par l'amour, ça. Ça, c'est des mauvaises habitudes qu'on a prises. Critiquer les autres, juger les autres, avoir de la médisance, rejeter, avoir des préjugés sur quelqu'un. Tu peux être là-dedans et tu n'en as même pas conscience. Cette facette de notre nature doit être affrontée et confrontée. Pour que tout cela disparaisse, il faut tout amener à la lumière. Ce n'est pas le moment de rejeter la faute sur l'autre. On n'est pas là dans cette restauration. On a vu la poutre et la paille. On n'en est plus là. On n'est pas là à dire « ouais, c'est la faute de l'autre ». Ça, c'est réglé. C'est réglé, ça. C'est l'affaire du péché dans la vie de chacun. On est tous des blessés de guerre de la vie. On n'y peut rien, c'est comme ça. Mais maintenant, tu es adulte. Maintenant, c'est à toi de prendre tes responsabilités. Donc, arrête de rejeter la faute sur l'autre et regarde tout ce que ça a fait comme dégâts parce que maintenant, Jésus est avec toi et c'est le moment pour toi de guérir de tout ça. De manière à ne pas traîner tout ça toute ta vie. Sinon, ta vie va être triste. Sinon, tu vas rencontrer des gens. Mais qu'est-ce que tu vas donner à ces gens-là ? Parce que tu es plein d'amertume dans ton cœur, parce que tu es plein de ressentiments dans ton cœur. Et ça, ça ne va pas disparaître, tout ça. Ça va se réveiller à chaque fois que tu seras blessé, à chaque fois que on t'aura dit quelque chose qui ne te plaît pas. Et bien, tout ça va ressortir. C'est là, c'est prêt à sortir. Vous ne pourrez pas réussir à vous comprendre sans regarder aux aspects sombres qui vous habitent. Le travail se fait pratiquement, principalement sur deux carreaux. Sur le carreau 2, c'est-à-dire ce que tu n'arrives pas à voir, mais que les autres voient. Il faut que tu t'intéresses à ça, honnêtement, sans te sentir dévalorisé parce qu'on te dit « ben ouais, je crois que tu as un petit problème avec ça ». Si tu es insécure, tu n'arriveras pas à régler ce carreau 2. Parce qu'à chaque fois qu'on va te dire une vérité qui te déplaît, ben tu ne voudras pas la regarder. Parce que tu es trop insécure. Parce que tu n'arrives pas à dire « ben, si tu le dis, si mon meilleur ami le dit, si lui le dit, en qui j'ai confiance, ben, peut-être que j'ai un problème. » Et oui, c'est ça. Donc, ce carreau-là est très important. Et puis, toi, il va falloir que tu arrêtes de jouer même avec toi-même. Il va falloir que tu arrêtes ça. Hein, ce que tu caches, ce qui n'est pas à la lumière, ce que les autres ne savent pas, mais que toi, tu connais. Ben, tout ça doit être mis à la lumière parce que ça doit être guéri. Tu vois, tes mauvais penchants, tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas amené à la lumière parce que tu as honte, parce que tu ne veux pas en parler, ben, tout ça, il faut que ça soit réglé. Le travail commence par regarder à notre enfance. Alice Miller, une chercheuse sur l'enfance, explique que les racines de la violence et de la destructivité de l'adulte se trouvent dans les traumatismes et les carences refoulées dans son enfance. On verra ça vendredi prochain. On verra vendredi prochain toutes les carences qu'on a pu avoir et que ces carences, eh ben, ils sont toujours là. Vous savez, vous et moi, nous ne sommes que des enfants qui avons grandi. Mais l'enfant est toujours là. Et l'enfant, s'il n'a pas été guéri, s'il n'a pas été soigné, eh bien, il pleure. Il est au fond de nous, mais il pleure. Donc, il faut rassurer le petit enfant. Il faut faire le deuil de certaines choses. On verra ça la prochaine fois sur les carences affectives, sur les carences qu'on a pu vivre dans notre vie. Chaque famille a son lot de secrets, à son lot de déboires, de drames. Les parents pensent qu'en gardant le silence, ils ne communiquent rien à leurs enfants. Mais si les enfants ne comprennent pas toujours les dilemmes et les enjeux de la vie des adultes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ressentent tout. Et souffrir sans pouvoir mettre des mots ne fait qu'alimenter les anxiétés, la culpabilité et la honte. Ces émotions toxiques habitent au plus profond de nous. Nous les avons enterrées à l'abri des regards, mais elles sont bien vivantes et viennent souvent nourrir de manière inconsciente nos réactions, nos comportements et nos paroles. Vous comprenez ça ? Ces émotions toxiques qui nous habitent, je parle de la peur, je parle de la culpabilité, je parle de la honte qu'il y avait dans la famille, transmise de génération en génération. Mais parce qu'on reproduit les mêmes choses. Et donc, on sent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et ça devient une honte. Et tout ça, c'est enfoui au fond de nous. D'accord ? Mais malheureusement, ça vient nourrir, et je répète, de manière inconsciente. On n'a pas toujours conscience de la manière dont nous parlons, de la manière dont nous réagissons, de notre comportement. On n'a pas toujours conscience. Mais ça prend naissance dans toutes ces émotions toxiques. Et que dire des familles dysfonctionnelles ? Là où il y a de la négligence, là où il y a eu de la maltraitance, là où il y a eu de l'abus, là où il y a eu de l'inceste. Parfois, il y a de la violence physique, mais souvent, elle est davantage psychologique et émotionnelle. C'est à l'âge adulte que l'enfant qui aura été maltraité commencera à souffrir et en réaction à faire souffrir les autres. Les gens blessés blesse les gens. Pour bien réussir cette étape, il faut regarder sans honte les blessures de votre enfance. Regardez tout ce que vous pouvez noter sur votre cahier, qu'on va retrouver dans les feuilles. Regardez tout ce que vous avez pu subir. Vous avez pu subir des humiliations, des déceptions, des trahisons, des abus, des injustices, des carences affectives, des blessures physiques, verbales, émotionnelles, des drames et des tragédies dans la famille, des deuils et des pertes. Il y a vos erreurs de jeunesse, il y a des rejets que vous avez subis, des déceptions, on l'a vu, des jugements, des ressentiments, des expériences sexuelles malsaines, des blessures essuyées, infligées, et des peines d'amour. Et la liste pourrait continuer comme ça. Personne n'a échappé. Il y en a dedans, vous devez vous retrouver. Peut-être que vous n'avez pas tout eu, j'espère, mais vous allez vous y retrouver dedans. Souvent, notre parcours est parsemé d'épisodes dominés par le mal-être et la déprime, où les carences de l'enfance semblent s'amplifier exagérément. Vous devez vous pencher sur cette période de votre vie qui recèle très probablement des choses que vous préféreriez oublier et ne pas affronter. On va le voir, c'est une étape où il faut du courage. Cette étape, c'est l'occasion de mettre un processus en route afin de ne pas vivre toute sa vie avec ce passé douloureux qui va dominer votre vie si vous ne faites rien. Trop souvent, nos problèmes proviennent d'un manque de croissance et de maturité. Prisonniers du passé, nous luttons avec l'enfant et l'adolescent en nous, incapables de grandir puisque nous sommes prisonniers de nos conduites immatures ou de nos failles mal soignées. Gardez à l'esprit qu'enfant, nous ne réglons rien, d'accord ? Enfant, on ne règle rien, puisque nous subissons les conditions de notre âge. À l'adolescence, on ne règle rien non plus, parce que nous sommes davantage en réaction aux blessures de l'enfance. Ce que nous avons tu pendant des années, ou n'avons pas pu exprimer durant cette période, finit par se traduire dans nos comportements et dans nos actions. Vient le moment où il faut cesser d'éviter et affronter les choses du passé pour pouvoir passer à autre chose. C'est l'âge adulte. C'est à cet âge-là que tout doit se faire. Et mes frères et sœurs, si vous êtes là, c'est que le moment est arrivé. La restauration de notre âme, avec l'aide de Dieu, va nous permettre d'ouvrir une nouvelle page de notre vie. Une vie plus paisible, plus calme, remplie d'amour et de confiance. Nous allons montrer à nos proches que la vie avec Jésus, ce n'est pas une utopie, ce n'est pas un mirage, mais c'est un miracle. Amen. C'est montrer qu'un autre chemin est possible, que le passé, aussi dramatique qu'il a été, peut ne pas te conduire à une issue. Qu'il y a de l'espoir dans ta vie. À partir du moment où tu confies ta vie à Jésus, les choses vont commencer à changer. Amen. Le titre dit « Nous avons procédé sans peur ». Dans sa racine latine, le verbe « procéder »,« nous avons procédé », signifie « aller de l'avant ». Voilà pourquoi vous ne devez pas vous arrêter à ce stade de votre cheminement. Mais voilà, sur ce chemin de rétablissement, l'obstacle majeur provient de nos peurs, de nos craintes et de nos insécurités. Et le risque, c'est la procrastination. Oh, c'est un terme savant. La procrastination, ça veut dire que je remets à demain ce que je dois faire aujourd'hui. Et les jours passent et finalement, on ne le fait pas. C'est ça le problème. Là, vous avez 15 jours. C'est un début. Peut-être qu'il faudra rajouter après des choses à votre livre. Mais déjà, si vous faites le travail sérieusement, 15 jours pour répondre à tout ce questionnaire, mettre votre vie à jour pour que vous puissiez être débarrassé de vos démons. Alors, de vos démons, quand on est chrétien, il faut faire attention à ce qu'on dit. On n'est pas tous démonisés. Hein. Mais à tous ceux qui vous obsèdent, à tous ceux qui fait que vous perdez le contrôle de votre vie, vous perdez le contrôle de la maîtrise de soi, tous nos travers, tous nos penchants. Hein, et bien, il faut mettre tout ça à jour pour qu'on soit débarrassé une bonne fois pour toutes. Une version différente de cette étape se lit comme suit. Nous avons courageusement procédé à un inventaire moral. Cette version insiste sur l'impérieuse nécessité d'être rempli de courage et de volonté tout au long du processus. Amen. Ne dites pas « Non mais c'est bon, moi je suis chrétien, j'ai tout compris, j'ai plus besoin de tout ça. » Non, non, non. Ne soyez pas orgueilleux. Soyez humble. Dis « Seigneur, qu'est-ce qu'il y a encore de caché en moi que je ne vois pas ?» Bien, on l'a vu tout à l'heure dans les deux cercles. Peut-être que on va le voir tout à l'heure, de s'entourer. Peut-être de s'entourer de personnes éclairées, de personnes dignes de confiance. Peut-être de vos meilleurs amis, de leur poser quelques questions par rapport au questionnaire. Comment ils vous voient? Il ne faut pas qu'ils aient peur aussi de vous. Il ne faut pas que vous soyez susceptibles. Et que s'ils vous disent quelque chose qui vous dérange, vous sautez au plafond. Il faut que vous soyez capable d'entendre comment les autres vous voient. Parce que peut-être que vous imaginez des choses et que la réalité, elle n'est pas là. Le mot courage, vous savez dans quoi il prend sa source, le mot courage ? Le mot courage, il prend sa source dans le cœur. Dans l'évaluation que nous faisons de notre vie, nous devons y mettre tout notre cœur. Et de prendre notre courage à deux mains afin de pouvoir regarder à ce que nous ne voulons pas voir. Pas facile. Pas facile de se regarder vraiment tel qu'on est. Identifier ce qui nous effraie et que nous voudrions garder caché. Dévoiler à nos propres yeux ce qui nous fait honte. La semaine prochaine, on parlera de la honte. Vous savez, quand vous êtes avec quelqu'un et qu'il vous met en évidence certaines choses, et tout d'un coup, il vous dit, bah, tu sais, ça, c'est de la honte. La personne, en général, a fait, quoi ? Ça, c'est de la honte, ça ? Eh oui. Tu caches ça parce que tu as honte de ça. Et en réfléchissant, la personne finit par dire, ah, c'est vrai, tu as raison, j'ai honte de ça. Mais ce n'était pas formulé, c'était caché. Mais c'est une émotion tellement puissante, la honte. La honte, vous savez, elle est cachée au fond de nous, elle est tapie au fond de nous, mais elle fait partie de notre personnalité, tant qu'on n'est pas transformé. Cesser de fuir ce qui nous trouble. Bref, comme on l'a dit tout à l'heure, faire le grand ménage en affrontant notre passé. Si vous avez sincèrement accompli les deux premières étapes et que vous avez vraiment pris la décision de remettre votre volonté et votre vie aux soins de Dieu, tel que vous le comprenez, alors c'est le moment de mettre ce principe en action. Dieu va vous aider à trouver la force de jeter un regard minutieux sur vous-même. Voilà le prix à payer pour votre rétablissement, mais aussi pour ne pas répéter constamment les mauvaises conduites et les comportements nocifs. Pour cela, à ce niveau-là de la restauration, je vous conseille de vous entourer de quelqu'un de proche pour faire le chemin en se confiant à cette personne-là, à différents moments peut-être de votre bilan. Mais c'est compliqué de voyager seul à ce niveau de la restauration. Il est temps de penser à ce qu'on appelle un référent. C'est toujours très bon d'avoir un référent dans sa vie. On n'aime pas des fois, hein, préfère être tout seul, se débrouiller tout seul. Vous savez, l'esprit orphelin. Non, non, ça je garde pour moi, personne n'est au courant. Voilà. Mais ça, c'est dangereux. On ne grandit pas tout seul. Si Jésus a fait l'Église, ce n'est pas pour rien. C'est de l'humilité pour dire on a besoin des uns des autres. Moi, par rapport à mon parcours de vie, franchement, ce que je vous dis là, ça ne me convient pas du tout. Moi, tranquille, tout seul, personne n'a besoin de savoir, je me débrouille. Mais ça m'a emmené dans le mur. Il a fallu que j'apprenne par l'humilité à dire, Bertrand, tu as besoin des autres. Ah, oh, ça fait mal. Tu as besoin des autres. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Parce que notre histoire, nos blessures, nos traumas, tout ce qu'on a pu vivre, ce qui est tellement compliqué que je dis deux, trois mots, il faudrait une liste compliquée. Eh bien, elle produit quelque chose qu'on ne voit pas et qui s'appelle l'aveuglement. Si on marche tout seul, il y a des choses qu'on ne peut pas voir. C'est comme ça. Et souvent, s'il n'y a pas quelqu'un à côté de nous qui a le courage de dire « je crois que tu te plantes, je crois que tu es en train de dérailler, je crois que tu es en train de prendre le mauvais chemin », quelqu'un qui a le courage de dire ça. Et pourquoi il le dit ? Parce qu'il nous aime et qu'il ne veut pas qu'on se plante. Alors gentiment dans l'amour, hein, le gant de velours, dans l'amour, il y a mon frère, je crois que tu te plantes. Je crois que ce n'est pas bon ce que tu fais là. Tu vois ? Qui tu fréquentes ? Ce que tu fais, tout ça, ça ne sent pas bon. Tu vois ? Tu viens plus à l'église et tu dis, oui, il faut que je me repose un peu. En ce moment, je suis fatigué. J'ai besoin de me retrouver un peu seul. C'est pas bon. Fais gaffe. Vous savez, quand on s'isole, on oublie qu'on a un ennemi spirituel, puissant, qui veut nous détruire. Et qui fera qu'une bouchée de nous si on s'isole et si on ne voit pas la réalité telle qu'elle est. C'est là qu'on a besoin d'avoir un frère, une sœur. Alors, si vous êtes un gars, il faut que ça soit un frère. Si vous êtes une sœur, il faut que ça soit une sœur. D'accord ? Ça, c'est fondamental. Parce qu'il ne faut pas être trop sûr de nous. Et pouvoir se confier, pouvoir dire là, j'ai besoin de ton avis, j'ai besoin de savoir ce que tu en penses. C'est ça un référent. Vous savez ? Et ça va plus loin que ça. Ça va aussi pour quelqu'un qui traverse un combat. Et le référent, c'est quelqu'un, en fait, à qui on dit « je t'autorise, je donne un accès. Je te donne un accès sur ma vie dans le sens que « appelle-moi et tu peux me poser des questions ». On le fait particulièrement, par exemple, dans tout ce qui est guérison d'addiction. Quand quelqu'un a une addiction, s'il n'a pas un référent, ça va être très compliqué pour lui. Mais s'il sent qu'il est soutenu, s'il sent qu'il a quelqu'un qui l'aime, et que quand ça commence à avoir, il sent que la tentation n'est pas très loin, il appelle son ami et il dit, voilà, ouf, ça, c'est chaud en ce moment. Eh bien, on va prier, on va briser tout ça. Et c'est à deux, c'est ça, apprendre à marcher avec quelqu'un qui nous soutient. Très important. Évidemment, on verra ça la semaine prochaine. Il faut prier, hein, quand on est dans ça sera l'étape 5, si je ne me trompe pas. Ça sera la confession. Il faut prier pour que Dieu nous donne la bonne personne, que le Saint-Esprit nous montre la bonne personne. Il est écrit ceci dans Jacques 5, 16. Confessez donc vos péchés, regardez bien, les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres. Et qu'est-ce qu'on obtient comme résultat ? La guérison. Vous voyez ? Confessez vos péchés les uns aux autres. Un inventaire moral minutieux. Celui qui regarde à l'extérieur de soi ne fait que rêver. Mais celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Belle phrase. L'inventaire moral constitue un examen de conscience approfondi et véritable. Cette étape ne consiste pas à changer quoi que ce soit. Comprenez bien, on est en train de faire un inventaire. On n'a encore rien changé. C'est un inventaire, ça ne change rien. Ça énumère simplement les choses. C'est un état des lieux. Pour l'instant, c'est quoi ma vie ? C'est quoi ma vie ? Je mets sur le papier, je couche sur le papier. C'est quoi ma vie ? Votre inventaire, c'est un historique des événements qui ont jalonné votre vie. Un historique de vos interprétations des événements, de vos sentiments et ressentiments, de vos conduites et de vos comportements. Essayez d'être le plus juste possible. Ne minimisez pas les événements ou l'impact que l'événement a pu avoir sur vous. Il faut comprendre exactement comment, quand, pourquoi et jusqu'où vos sombres pulsions vous ont conduit à devenir ce que vous êtes aujourd'hui et de mettre en évidence vos souffrances. Voici quelques conseils. Priez avant de commencer et demandez au Saint-Esprit de vous guider. Soyez rigoureusement honnête avec vous-même. Procédez consciencieusement et progressivement. Mettez par écrit ce que vous identifiez. Ne sombrez pas dans l'apitoiement. Ah, je suis nul. Qu'est-ce que je suis nul comme gars ? Non, on n'est pas là pour ça. Hein. Parce que si on dit ça, on est tous nuls. Donc, on est des enfants de Dieu et notre valeur, elle a un grand prix aux yeux de Dieu. Donc, on a pu faire des choses, c'est vrai, on en fera encore, mais ça ne remet pas en cause qui nous sommes comme enfants de Dieu. Mettez par écrit, donc ça, nous sommes, prenez tout le temps nécessaire pour faire cet exercice. Et prenez une boîte de mouchoirs avec vous. Peut-être plus les femmes que les gars, peut-être, parce que les gars, vous savez, ils veulent pas pleurer. Hein, mais prenez une boîte de mouchoirs et pleurez ce que vous avez à pleurer. Et surtout, accueillez vos émotions. Hein, ne réprimez pas vos émotions. Accueillez-les. S'il y a besoin de pleurer, ben pleurez. C'est Dieu qui a inventé les larmes. Hein. Et les larmes, ça nous aide à évacuer les choses. Donc, retenez pas les larmes. Moi, mon père m'a toujours dit, un vrai mec, ça pleure pas. Mais il était à côté de la plaque, le pépère. Enfin, il est intéressant de faire un inventaire de nos peurs et de nos ressentiments. La raison derrière cela est que ces deux aspects de notre nature causent plus de chutes et de déboires que n'importe quelle autre émotion. C'est quoi ces émotions ? La peur et le ressentiment. D'accord ? La peur. La peur toxique, c'est une peur irrationnelle. Une peur où on imagine des choses. On fait des scénarios de folie, alors qu'on est des fois loin de la réalité. Mais le problème, c'est que quand on réagit par rapport à une peur toxique comme ça, eh ben, on fait des choix catastrophiques. Et le ressentiment, pareil. Dans le ressentiment, c'est l'amertume. Et l'amertume, c'est le poison de l'âme. Quelqu'un qui reste dans l'amertume, il s'auto-détruit tout seul. Puisque c'est un poison qui est diffusé dans son âme. Celui qui sait les identifier, les affronter et les régler saura ainsi éviter les pièges qui jalonnent son chemin. Enfin, il s'agit de nous-mêmes. Chercher un coupable est compréhensible, mais ne vous aidera pas. Regardons à trois niveaux de responsabilité dans la vie. On est en train de régler notre situation. Alors évidemment, on pourrait dire, ouais, mais tu vois, ça c'est parce qu'on m'a fait ça. Ça c'est parce que j'ai subi ça. Oui, c'est vrai. Mais on n'est pas dans ce problème-là. On est dans le problème que oui, il t'est arrivé ça, c'est malheureux, c'est vrai. Et tout le monde a subi des choses qu'il n'aurait pas dû subir si le péché n'était pas là. Mais en réalité, on passe à une étape supérieure. On ne regarde plus qui nous a fait ça. On n'est pas dans cette étape-là. Là, on dit, maintenant, c'est ma responsabilité pour aujourd'hui et pour l'avenir. Je ne peux plus m'appuyer, je ne vais pas toute ma vie m'appuyer derrière la faute de mon père, derrière la faute de ma mère. C'est fini, c'est trop tard. Je ne peux plus. Il faut passer à autre chose. Donc, regardez bien les trois niveaux de responsabilité. 1. Nous ne sommes pas responsables de la façon dont nous avons commencé dans la vie. Mais par contre, nous sommes responsables de comment nous allons la finir. Amen. Il n'y a pas de fatalité. Il y a une question de responsabilité. Hein? Peut-être que je ne suis pas né dans la bonne famille. Peut-être que je ne suis pas né dans le bon pays. Peut-être que je ne suis pas né là où il aurait fallu. Oui, ok. Mais maintenant, je fais quoi avec ça? Deuxième chose. Nous ne sommes pas responsables de ce que les autres nous ont fait. Mais nous sommes responsables de ce que nous faisons avec ce que les autres nous ont fait. Vous avez le droit de relire. Nous ne sommes pas responsables de ce que les autres nous ont fait. Mais maintenant, nous sommes responsables de ce que nous faisons, la manière dont nous allons réagir. Comment on va réagir avec ce que les autres nous ont fait? Ça, c'est notre responsabilité. Est-ce qu'on va faire comme eux? Est-ce qu'on va leur rendre l'appareil, œil pour œil, dent pour dent? Comment on va réagir? Est-ce qu'on va réagir comme Jésus a réagi quand il a été humilié, quand il a été battu, quand il a vécu les pires souffrances, quand il a été abandonné, quand il a été victime d'injustice? Est-ce qu'on va faire comme Jésus Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce qu'on va être à ce niveau-là? Ou est-ce qu'on va être dans le œil pour œil, dent pour dent? C'est une vraie question. Troisièmement, nous ne sommes pas responsables de ce que les autres nous font, mais nous sommes responsables de ce que nous les avons laissés nous faire. Un autre niveau de responsabilité. On n'est pas responsable de ce que les autres nous font, mais nous sommes responsables de ce que nous les avons laissés nous faire. Là encore, on parle d'abus. Hein, et alors, quand on est bébé, je comprends, mais il y a plus tard, qu'est-ce qu'on n'a pas osé dénoncer? Qu'est-ce qu'on n'a pas osé dénoncer? Alors, nous sommes toujours dans cette fenêtre de Johari, et il faut être réaliste. Ce soir, je ne suis pas tendre avec la nature humaine. Ce n'est pas vous qui êtes visé, c'est la nature humaine, et je m'inclus dedans. D'accord? On n'est pas au pays des bisounours. On aimerait que les gens ne soient pas comme la fenêtre de Johari. Malheureusement, il suffit de lire le journal, il suffit de regarder l'actualité. Tous les jours, on voit des réalités sur la puissance du mal. Et nous en faisons partie. Malheureusement, je le dis bien, je le regrette, mais on ne peut pas changer ça. Donc, quand je dis que chaque être humain possède ses propres zones d'ombre, c'est une réalité. Malheureusement. Alors, on n'est pas tous des pédophiles, heureusement. Mais on a tous des choses en nous qui ne sont pas bonnes et qui se révèlent quand il y a une tension, quand il y a du stress, quand il y a des désaccords, quand on nous blesse, quand il y a cette injustice que nous vivons, alors là, quand dit créole, pèse sur la queue, et tu vas voir ce qui sort. Là, tu vois le caractère de la personne telle qu'il est. Hein? Pèse sur la queue. Accepter le monde tel qu'il est. Reconnaître que seul Jésus a le pouvoir de changer ce monde et entrer avec lui dans ce processus de guérison. Il faut mettre à jour nos zones d'ombre. Les gens sont malades et resteront malades tant qu'ils n'auront pas été guéris par Jésus, le seul qui est capable de guérir les cœurs brisés. Et ce n'est pas surprenant, parce que j'aime ce verset, c'est l'Ancien Testament. Vous imaginez, ce n'est pas d'aujourd'hui. L'Ancien Testament, Isaïe qui dit, les êtres humains, c'est simple, la tête entière est malade. Et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions, plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Vous voyez ? Et quand je vous dis que le sexe prend une part importante dans les dysfonctionnements, vous voyez ? Regardez le monde en face. Pour qu'on puisse prendre notre part de responsabilité, guérir pour guérir les autres. Regardez, il y a beaucoup de viols dans le cadre familial commis par des pères, des frères, des proches. C'est rarement le fait d'étrangers. Regardez, une femme violée toutes les 7 minutes en France. Vous imaginez ça? Toutes les 7 minutes, il y a une femme qui est violée. Quand on parle de dysfonctionnement, là, c'est sérieux, hein? Autre chose, regardez ça. Un enfant sur 7 est victime de violence dans le monde du sport, selon une étude européenne publiée en 2021. Un enfant sur 7, c'est énorme. Énorme. Oui. La Bible nous dit dans Marc 7, 21, car c'est du dedans, c'est-à-dire ça vient du cœur. Tout est dans le cœur. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Vous voyez ? Le cœur de l'être humain a besoin d'être guéri entièrement. La clé de notre, la clé de votre rétablissement est entre vos mains. Travailler à vos zones d'ombre permet d'assumer pleinement la responsabilité de votre vie afin d'annoncer l'espoir. On n'est pas dans une religion. Hein? On n'est pas là pour faire le beau, on n'est pas là pour avoir une apparence, avoir une religion. Ça n'a intéressé personne. Sinon, on serait resté ce qu'on était. On serait resté catholique, on serait resté chez les hindous, on serait resté dans notre religion, ou athée. Pourquoi pas? Mais nous, on a choisi la vérité. On a choisi de ressembler à Jésus. On veut donner l'espoir à cette société. C'est ça l'engagement. On ne peut pas jouer à un jeu. On ne peut pas dire « Ah, moi, j'aime Jésus, je vais te parler de la Bible, je vais te montrer Jésus. » Et puis faire n'importe quoi. Une fois que les volets sont fermés, une fois que personne ne nous voit. Mais on vaut mieux que ça. On vaut mieux que ça quand même. On ne va pas se laisser piéger par de l'apparence. Oh, ils sont à fond là, je le sens. Non, mais c'est vrai. Hein, toute notre vie, on a vu de l'injustice. Toute notre vie, on a eu envie d'autre chose. Hein? Et là, maintenant, on y est. On a trouvé la possibilité de changer. Ben, allons-y à fond. À fond les gamelles. À fond les ballons. Amen. Soyons clean, soyons honnêtes, soyons authentique. Amen. Et puis, ben, petit à petit, on n'est pas des êtres parfaits. Mais petit à petit, eh ben, mettons à jour ce qui ne va pas. Et là on est pour 3 mois dans une restauration. OK, mais ça ne va pas s'arrêter là. Parce qu'il y a des choses qui prendront encore un petit peu de temps à déraciner. Mais ce n'est pas grave si notre cœur a compris tout ça. Et quand ça va arriver, eh ben, quand on aura blessé quelqu'un, ben, au lieu de dire « Eh ben, elle n'avait qu'à pas faire ça, franchement. Elle n'avait qu'à pas dire ça. Non, c'est fini. » On dira « Mais Seigneur, pourquoi je me suis encore énervé? Qu'est-ce qui ne va pas en moi ?» Et là, on changera petit à petit. On va changer. Qu'est-ce que c'est le but? Ressembler à Jésus. Et moi, je suis honnête avec vous parce que c'est ce que je crois personnellement. On n'aura pas assez de cette vie pour ressembler à Jésus. Donc commençons à bosser maintenant. Il y a du boulot, il y a du pain sur la planche. Mais après, on pourra témoigner avec un témoignage puissant, un témoignage fort. Et pour ceux qui sont en couple, et pour ceux qui ont des enfants, les enfants, ils vous regardent. Les enfants, ils vous regardent. Vous leur parlez de Jésus, ils vous regardent. Et s'ils voient que, cause toujours, tu m'intéresses, parce que franchement, entre ce que tu dis et ce que je vois, là, le fossé, il est large. Large. Non. Il faut qu'on donne envie à nos enfants. On veut aller dans le ciel avec nos enfants. On veut qu'ils soient avec nous pour l'éternité. Eh bien, ça commence dans notre famille. Ça commence à montrer l'exemple dans notre famille. C'est ça la réalité. Est-ce que c'est facile? Évidemment que non. Si c'était facile, ça se saurait. C'est du boulot, c'est du travail, c'est de la foi. Mais c'est possible. C'est possible. Jésus le veut, Dieu le veut. Si Dieu le veut, alors franchement, hein, c'est que c'est faisable. Si Dieu le veut, il va nous aider, il va nous équiper. C'est à nous de se mettre au service de Dieu. C'est à nous d'être honnêtes. C'est à nous de dire, Seigneur, je suis encore trop orgueilleux. J'ai du mal à changer. J'ai du mal à regarder les choses. Je suis encore trop orgueilleux, Seigneur. Viens briser cet orgueil. Concentrez-vous sur vous-même et résistez à l'idée de regarder aux défauts et aux manquements des autres. Toi, suis-moi. C'est pas ce que Jésus a dit? Toi, suis-moi. Regarde pas les autres. Te cache pas derrière les autres. te sert pas comme excuse que les autres, ils sont pas aussi parfaits que tu voudrais. Avance. Pour réussir pleinement ce premier inventaire, il vous faudra absolument éviter le piège du déni, j'en ai parlé tout à l'heure. Le déni, la dénégation, la négation de notre réalité sont trois appellations du même mécanisme qui met en évidence la capacité de tous les êtres humains à refuser de voir la réalité ou à accepter la vérité. Voici quelques pièges que vous pourrez rencontrer. D'abord, nier. Nier, c'est quoi ? C'est refuser de voir la réalité ou simplement de ne pas l'accepter. C'est aussi un refus de la vérité malgré les évidences. Et ça, c'est quand tes proches, c'est ceux qui t'aiment. Ils te disent que tu as un problème et toi, tu es là. Non, j'ai pas le problème. C'est ça, nier. Ensuite, minimiser. Minimiser consiste à diminuer l'importance de quelque chose. Par exemple, les personnes victimes d'abus, de maltraitance ou de négligence ont tendance à atténuer la gravité des gestes dont ils ont fait l'objet. À l'inverse, on peut aussi être tenté de minimiser ce que nous avons fait aux autres et continuer à leur faire. Par exemple, avec la colère, mais certains ont tendance à sous-estimer l'impact de leurs paroles et de leurs gestes sur les autres. Avec l'expérience de l'abandon, certains ne verront pas l'emprise qu'ils exercent sur les autres, ou le comportement d'une jalousie maladive, ou encore la manifestation d'une dépendance affective. Vous voyez ? Tout ça doit être mis à jour. Si ce n'est pas mis à jour, ces comportements-là, que je répète là, un comportement d'emprise envers les autres, un comportement de jalousie maladive envers les autres, un comportement de dépendance affective envers les autres. Si ce n'est pas mis à jour, ça, parce que, y a eu, on verra la semaine prochaine, les carences qu'on a eues, peut-être de l'abandon, peut-être qu'on n'a pas été aimé, peut-être que les parents n'ont pas su créer en nous une confiance en nous, et qu'on est complètement insécure. Hein. Et quand quelqu'un nous aime, la première chose qu'on pense, elle va se barrer. Ben oui, parce que c'est pas possible qu'elle reste avec moi. Elle va rester là, c'est le début. Mais à un moment, elle va regarder qui je suis et puis elle va partir. Ben oui, parce que j'ai tellement une piètre opinion de moi-même que franchement, une femme comme ça, mais elle ne peut pas rester avec moi. Et donc, inconsciemment, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, on va reproduire ce que je viens de dire. On va reporter, on va avoir une certaine emprise, on va avoir un comportement de jalousie, on va avoir une manifestation de dépendance affective, et tout ça, ben, ça va foutre la relation en l'air. Donc vous voyez, si ce n'est pas mis à jour tout ça, parce qu'on n'a pas pris conscience de nos carences, et on n'a pas pris conscience des conséquences de notre carence, eh ben, on risque d'être malheureux, parce que ça va se reproduire, parce que ce n'est pas guéri. Donc c'est important de mettre tout ça à jour. Sinon, vous aurez 80 balais, et puis vous serez toujours avec votre jalousie maladive. Ah, ce sera un peu tard. Mais ça ne quitte pas pour que ça quitte pas comme ça. Ensuite, blâmer. Le blâme comporte plusieurs facettes. De façon générale, il consiste à rejeter la responsabilité ou la faute sur quelqu'un d'autre. C'est pas moi ! C'est pas moi, c'est elle ! C'est pas moi, c'est lui ! Il s'agit d'une forme de jugement défavorable que l'on pose sur une personne en lui reprochant sa conduite ou ses agissements. Ça s'appelle blâmer. Plus que tout, le blâme, c'est la manifestation de la frustration et d'une colère refoulée. Ceux qui sont profondément fâchés cherchent davantage un coupable que la résolution des problèmes qui découlent de ce qui leur est arrivé. Là, on n'avance plus, parce qu'on ne regarde pas à la solution. On regarde au défaut de l'autre, à la faute de l'autre. On le blâme. On dit, mais c'est toi ! On n'avance plus. Thomas Kempis a dit un jour, ne sois pas fâché que les autres ne soient pas comme ce que tu voudrais qu'ils soient, puisque toi-même, tu n'as pas réussi à être ce que tu voulais. Miséricorde insondable. Et oui, c'est le début de l'amour. C'est le début de l'amour. C'est de ne pas se croire supérieur à l'autre. L'autre est imparfait. Et je suis imparfait. On doit travailler ensemble. Et chacun honnêtement, chacun sur ses imperfections. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Prenez un couple, une fois que la lune de miel est passée. Mais un couple, il doit travailler chacun sur ses imperfections. Parce que s'il ne le fait pas, mais on va se blâmer. On va se blâmer. À chaque fois, on va reporter la faute sur l'autre. Il faut regarder. Ça, c'est un thérapeute chrétien qui a dit ça un jour. Il faut regarder aux qualités de l'autre et à ses propres défauts. C'est comme ça qu'on avance. Okay ? Parce que si on ne le fait pas, vous savez ce qui va se passer à force de blâmer l'autre ? On ne voit plus que le mal en lui. Tout ce qui ne va pas. Il n'y a plus que ça. À tel point que tu te demandes pourquoi il s'est marié avec. Parce que tout est négatif. Non ! Tu as choisi cette personne-là, elle avait des qualités. Les qualités ne sont pas parties. Mais c'est ton aveuglement qui fait qu'aujourd'hui, tu ne vois que les défauts. Que les défauts. Et puis toi, comme tu blâmes l'autre, tu ne vois pas tes défauts. Et le couple, petit à petit, meurt, devient ce que j'appelle une colocation. C'est triste. Il ne faut pas en arriver là. C'est des erreurs qu'on a faites. Et merci Seigneur qu'on peut se redresser. Alléluia. Il y a de l'espoir avec Jésus. Amen. Amen. Dernière chose, rationaliser. Enfin, la rationalisation, c'est un mécanisme par lequel une personne cherche à donner une explication cohérente ou du moins acceptable, en particulier d'un point de vue moral, à des actions, des attitudes, des idées qui ne le sont pas vraiment. On trouve une rationalisation. On explique que mon comportement, il s'explique. Voilà, c'est rationnel. Là, j'ai un exemple, là, par exemple. Voler un voleur, c'est pas voler. Très souvent, les gens tentent de justifier des gestes ou des comportements en leur donnant une raison qu'ils estiment valable. Ils peuvent se justifier devant les autres et ou face à eux-mêmes. Trouver des explications pour justifier nos manquements ou des excuses pour banaliser notre responsabilité constitue une déformation de la vérité. En fait, rationaliser, vous savez ce que c'est ? C'est mentir et se mentir. En résumé, pour cette soirée numéro 3, à l'étape 1, après avoir lutté avec nous-mêmes, nous avons capitulé et reconnu notre incapacité face à ce que nous vivions. À l'étape 2, en réaction à notre incapacité, nous avons pris conscience que Dieu existait et qu'il voulait et qu'il pouvait nous aider. Cette troisième étape constitue la première étape où, au lieu de nous concentrer sur ce que les autres nous ont fait ou sur Dieu, nous cherchons à découvrir et à comprendre ce qui se passe en nous, dans notre cœur, et ce qui a affecté le déroulement de notre vie. La réussite de cette étape vous permettra de préparer le succès des étapes à venir. Ne lâchez rien. Vous progressez courageusement. Vous verrez apparaître bientôt tous les bénéfices rattachés à votre démarche. Le mot de ce soir, c'est examiner. Et le mot-clé, introspection. Regardez ce qui se passe en nous-mêmes. Amen, 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 amen. Il y a 15 jours qui vous attendent là. C'est 15 jours importants. 15 jours où vous allez mettre votre vie à nu. Vous allez regarder tout ce qui s'est passé dans votre vie. Le questionnaire que je vais demander à Erland de distribuer, il va vous aider. Il va vous aider beaucoup. Prenez du temps. C'est Alain qui le fait ? Alain, mon cher frère. Et bossez-le, parce que si vous ne le faites pas, la suite ne sera pas à la hauteur de vos attentes. Donc faites-le sérieusement, parce qu'après, on ira vers de la délivrance, on ira vers de la guérison. Mais d'abord, il faut mettre à jour, afin de ne pas reproduire toujours les mêmes erreurs. Amen, amen, amen.